Bonjour mes amis. Merci mon frère, j'ai été fait travailler beaucoup. Mais au moins ceux qui n'ont pas pu lire la Bible cette semaine, donc ils ont rattrapé aujourd'hui. Je suis très content de pouvoir partager ce texte parce qu'il me parle très fond dans mon cœur. Et les moments dans lesquels je passe, les moments que j'ai vus, cet texte vient à la rencontre du besoin de mon âme. Donc, quand Clément m'a demandé de parler sur Daniel 2, et j'ai lu les textes et j'ai dit, tiens, ça c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. C'est un texte qu'on pouvait pas couper et retirer quelques versets, parce que c'est toute une histoire. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu et Père, dans ces moments importants, de communiquer ta parole, d'exposer ta parole, je te demande ta bénédiction sur ma vie et sur ceux qui vont m'entendre. Que tu puisses nous bénir en ces moments. Et enlever de nous, Seigneur, toutes les pensées qui puissent nous distraire et que nous puissions vraiment écoutez ce que ton esprit veut nous dire aujourd'hui. Amen. Les livres de Daniel, c'est peut-être un des livres les plus difficiles à être interprété dans la Bible. Pourtant, le livre de Daniel, c'est une source d'encouragement. C'est une leçon de vie pour nous tous. Les livres de Daniel a été déjà très combattu par la critique, parce qu'il y a des prophéties qui s'accomplissent, qui se sont accomplies déjà dans l'Antiquité. Et comme la critique ne croit pas en Dieu, il disait, c'est un livre écrit tardivement. C'est pas de l'époque de l'exil en Babylone. Parce que Daniel, il annonce les royaumes, les empires qui allaient succéder l'empire babylonien. La plus grande message du livre de Daniel, c'est que c'est possible de rester fidèle à Dieu. Et le deuxième message très important, dans lequel je vais vous attirer l'attention, c'est de vous inviter à vous soumettre à Dieu, parce qu'il est souverain. Quand les choses sont difficiles et on ne voit pas de solutions, on doit faire confiance à Dieu, parce qu'il est là et il fait ce qu'il veut. Malgré toute notre confusion, notre difficulté, Dieu reste souverain. Il dirige toutes choses. Il est en train de diriger nos vies selon sa bonne volonté. Je vais vous lire une phrase que j'ai toujours dans mon cœur. C'est quand Saint Augustin, l'auteur, l'écrivain le plus important dans la chrétienté, après l'apôtre Paul, bien sûr, et quand il dit au début de son livre les cités de Dieu, il dit: deux amours ont constitué deux cités. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi. Et pour la cité des hommes, l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Je vais vous répéter. Deux amours ont constitué deux cités. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi. Et l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Les messages aussi clairs, mes amis, cet après-midi, que Daniel était en Babylone, mais il n'était pas là comme un touriste. Daniel était forcé à l'exil. Daniel, il était membre de la classe supérieure, de l'aristocratie de Jérusalem, et il est arraché dans la première déportation vers l'année 605 avant Jésus-Christ. Nabucodonosor vient et prend les principaux, la famille royale. Nous savons qu'il y a eu 3 déportations. La première, il a pris la natte. Il a pris les plus riches. Il a pris la jeunesse intellectuelle de Jérusalem pour pouvoir profiter de toute cette connaissance et contrôler ses peuples. Babylone veut s'emparer de la jeunesse, de la force d'Israël. Et Daniel doit quitter sa maison, sa chambre, ses amis, sa maison, ses parents, pour aller être au service de Nabucodonosor en Babylone. Il s'est fait un sacré chemin, la distance. Ici, il y a une chose par laquelle les Juifs sont très attachés, c'est à sa terre. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère, dit Psaume 137, 4. Si je t'oublie, Jérusalem, qui ma droite m'oublie. Israël, les Juifs sont attachés à leur terre, à la cité des dieux, de la présence de Dieu, là où il y avait les temples qui représentent la présence de Dieu sur terre. Et Daniel est amené à Jérusalem. Même son nom, qui voulait dire « L'Éternel est mon juge », est devenu Belteshazzar, Bel, le dieu des Assyriens, protège le roi. Mes amis, Babylone représente les péchés. La Babylone représente l'immoralité, l'orgueil, l'idolâtrie. Après Babylone, elle est devenue dans la Bible un symbole de l'idolâtrie. Et en Apocalypse, on va voir la grande prostituée et la Babylone. C'est pas la même, bien sûr, mais c'est pour représenter la société qui est éloignée de Dieu. Tout est à vendre à Babylone, les corps et les âmes d'hommes. Et Daniel se trouve donc de la ville sainte, il se trouve dans la ville du péché. Il y a de la nostalgie. En portugais, on dit saudades. En anglais, on dit homesick. Mais il reste honnête. Il reste bon. Il reste en prière. Et Dieu, il est dit au chapitre 1, verset 17, et Dieu donna à Daniel les dons de rêve et les pouvoirs d'interpréter les rêves. Il ne s'agit pas ici d'une intelligence naturelle, mais celle qui vient d'en haut. Le Seigneur était avec Daniel en Babylone. Le Seigneur donna, le Seigneur a donné, le Seigneur donne. Voilà le résumé de toute la Bible. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Toute l'histoire de la Bible, c'est Dieu en donnant de soi aux hommes. Et il donna à Daniel un don extraordinaire. Le roi a eu un rêve, et lorsque les tyrans ont des mauvaises rêves, Dieu est là à l'œuvre. Nabucodonosor est troublé. Il veut comprendre le rêve, mais ça lui échappe. Je trouve très bizarre des gens qui n'en ont pas des rêves. Il y a des gens qui disent « j'ai jamais fait des rêves dans ma vie ». Moi, je rêve tous les nuits, j'ai des rêves. Je comprends rien. Et la science a déjà expliqué que les rêves, c'est simplement le travail de l'inconscient. L'inconscient, il déconstruit tout ce que nous avons vu pendant notre vie. C'est un bazar complet dans notre tête. Mais c'est là aussi où Dieu nous parle. Dieu parle aussi par les rêves. Je le crois. Ça ne veut pas dire que tous nos rêves ont dans un sens. Parce que quand un rêve vient de Dieu, c'est clair, ça nous choque. On reste troublé. On veut comprendre. Nabucodonosor, c'est un tyran. Il menace tous les magiciens, tous les astrologues, tous les mystiques de Babylone à mort. Mais il n'y a personne sur la terre. Verset 14. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arioch. Il s'est rendu vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Daniel, c'est un jeune homme prudent et sensé. En Proverbe 15, 28, il est dit « Le cœur du juste médite pour répondre. » Nous avons besoin de méditer pour donner la réponse. Peut-être que cette semaine, vous devez donner une réponse à quelqu'un. Si c'est le moment de lui donner cette réponse, il faut demander au Seigneur qui te donne de la sagesse. Parfois, et combien de fois, nous devons rien dire, nous devons que prier. Mais il y a des moments où nous devons donner une réponse. Mais que votre réponse ne soit pas les fruits de la colère. Que votre réponse ne soit pas les fruits de l'orgueil propre. Non. Que votre réponse cherche à glorifier à Dieu. Penser et réfléchir sur la réponse, c'est une manière de laisser le Seigneur agir dans notre cœur. Les gens qui sont très pressés ont donné des réponses, sont ceux qui disent des choses qu'après ils vont se repentir. Il faut que nous demandions au Seigneur de la sagesse. Proverbe 2, 6, car l'Éternel donne la sagesse et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Jacques, au Nouveau Testament, chapitre 1, verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Si vous devez donner une réponse importante, priez. Entrez dans la présence de Dieu et le Seigneur va vous diriger pour donner la bonne réponse. Et la bonne réponse donnée dans son bon temps, c'est une chose merveilleuse. Au verset 17, il est dit « Ensuite, Daniel alla dans sa maison. Il instruit de cette affaire Ananias, Michaël, Azaria, ses compagnons. » Les engageant à implorer la miséricorde de Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes des sages de Babylone. Daniel a péri des villes, des vies, et il entre en prière. Daniel connaissait les secrets. Avant de connaître les secrets des rêves, il connaissait les secrets de la prière. Il y a des moments où nous devons prier seuls dans notre chambre. Et il y a aussi des moments où nous devons implorer et nous réunir pour prier à Dieu ensemble. C'est comme ça qu'il marche. C'est comme ça que la main du Seigneur s'étend vers nous. C'est par la prière. Et Paul dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Et Jacques nous dit, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Daniel connaissait le secret de la prière. Est-ce que nous connaissons aujourd'hui? La prière semble tellement oubliée dans nos jours. Si on fait un repas, une collation, il y a du monde. S'il y a une réunion de prière, il y a deux ou trois. Pourtant, la prière, c'est notre la façon dont on fait Dieu agir dans nos vies. Et Daniel s'est réuni avec ses trois compagnons. Il prie. Alors l'impossible s'est fait possible. Verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et ça me rappelle les versets de Jérémie 33, 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Ça, c'est une promesse pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Jérémie 33, 3. Le Seigneur n'a pas changé ses méthodes. Elles sont toujours valables. En acte 2, 16 à 17, Pierre, il dit comme ça, « Mais ceci a été dit, ce qui a été dit par les prophètes Joël, dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répondrai de mon esprit sur toute chair, vos enfants et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Les rêves, c'est aussi une manière de le Seigneur nous parler. Quand nous sommes très agités, quand on ne peut pas s'arrêter pour entendre la voix de Dieu, quand ça devient difficile, Dieu aussi peut nous parler par les rêves. Daniel, c'est vraiment un jeune homme de qualité. Avant même de décrire au roi les rêves et son explication, il laisse très clair qu'il, Daniel, n'a aucun mérite et que tout cela, c'est pour la gloire des dieux. Verset 30. Si ces secrets m'ont été révélés, n'est pas point qu'il ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous le vivant, mais ça vient de la miséricorde des dieux. Daniel pourrait très bien se profiter de l'occasion pour se faire promouvoir devant le roi. Mais Daniel est avant tout un homme humble. Et là, il nous décrit la statue du verset 31 au 36. Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer, en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans laisser cordu, qu'une main frappa les pieds des fers et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors les fers, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devirent comme la balle qui s'échappe d'un air en été. Les vents les emporta et nulle trace ne fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé les statues devint une grande montagne et remplit toute la terre. Et Daniel est très clair quand il dit, c'est toi, roi, qui es la tête d'or. Faible consolation pour Nabucodonosor, car la pierre brisa tout, même la tête d'or. On s'est creusé la tête, nous, pour savoir quels étaient les 16 empires mondiaux. L'empire médo-perse, l'empire grec, l'empire romain. Mais leurs noms nous emportent très peu. Les empires de ces mondes se succèdent. Ils se croient des puissances, se comparent à l'or, l'argent, les bronzes. Et nous avons très bien l'exemple d'un dictateur aujourd'hui, avec une chevelure blonde qui se croit grand chose. Leur fin, c'est toujours les mêmes, tomber par terre, être couverts par la poussière. Au siècle XIX, on croyait que Babylone n'était qu'une contée des fées de l'Antiquité, une sorte de légende. C'est alors que des archéologues européens passionnés par les passés ont commencé à creuser. Des milliers de tonnes de poussière a été transportées. Et tiens, Babylone apparaît et voit de nouveau le soleil. La Bible avait raison. La Bible avait raison. Ce qui pour les peuples était qu'une simple légende, la Bible avait déjà détaillé dans les moindres des détails. Babylone était une ville réelle. À travers les siècles, la pierre roula et écrasa la vanité des peuples. Et ce qui est passé dans l'histoire de l'humanité est aussi passé chez nous. Chacun de nous a eu son petit royaume. Moi, je suis le roi. Mes projets, mes études, mon argent, ma maison, ma voiture, tout était embranlé par la puissance de l'Évangile. Ici, ce n'est plus un rêve, c'est de la réalité. La pierre du jugement ne vient pas simplement pour détruire. Si dur que cela nous paraisse, lorsque les rêves des puissances tombent par terre, les royaumes de Dieu peuvent prendre sa place. C'est pour que nous puissions accomplir les premiers commandements. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Je peux vous dire que cette pierre a roulé sur ma vie. J'avais un projet de vie. Le Seigneur avait un autre projet pour moi. Je croyais que le Seigneur occupait la première place en moi. Et le Seigneur m'a montré que non. J'étais converti. Je croyais en Jésus. Mais ma vie n'était pas encore tout à fait rendue au Seigneur. La Bible nous dit que nous ne pouvons pas nous vanter des jours de lendemain. C'est pas nous qui sommes au contrôle de nos vies, c'est le Seigneur Jésus. Nous devons toujours dire, si le Seigneur veut, oui, je vais faire un voyage en Chine. Si le Seigneur le veut, je vais faire ceci et cela. Nous devons toujours mettre le Seigneur devant pour que la bénédiction de Dieu puisse être sur nous. Nous devons toujours confier au Seigneur nos projets et lui demander de confirmer ce qu'il veut dans notre vie. Parce que parfois nous travaillons pour rien. Nous travaillons pour la vanité. Parce que c'est pas là où Dieu veut que tu sois. Jésus-Christ, c'est la pierre d'angle. Elle est la montagne qui remplit toute la terre. Le verset 44, « Dans les temps de ces rois, le Dieu des ciels suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la dénomination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. » Et Pierre nous dit, « Approchez-vous de lui. » 2 Pierre 2,4, « Approchez-vous de lui. » Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Son royaume n'aura pas fin. Il règne éternellement. Qu'il puisse régner dans ta vie, mon frère et ma sœur, à 100%. Laisse le Seigneur conduire ta vie. Arrête de faire des projets dès longtemps, pour longtemps. Laisse, confie au Seigneur ta vie. Confie au Seigneur ton avenir. Confie au Seigneur parce que ça vaut la peine de lui faire confiance. Alors le roi Nabucodonosor tomba sur sa face, se prosterna devant Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur de rois. Il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ces secrets. » Dans ces jours d'exil, dans ces derniers temps de Babylone, je vous invite à lever vos têtes, à croire en davantage à les Seigneurs, à être plus humble et à demander au Seigneur de la sagesse qui vient d'en haut. Les dieux d'Israël, les dieux de Daniel et avec chacun de vous. J'imagine Daniel, ça c'est pas écrit dans la Bible, un jeune homme de 20 ans qui devient le gouverneur de Babylone à l'âge de 20 ans. Un rêveur comme Joseph qui est devenu le gouverneur d'Égypte. Daniel, un jeune homme sans pas beaucoup d'expérience dans la vie. Il voit un roi qui tout le monde craignait, un roi puissant tombé par terre devant lui. Il s'est prosterné devant lui. Je crois qu'en ce moment-là, Daniel s'est dit à soi-même, ça vaut la peine de servir le Seigneur. Vraiment, le Seigneur nous surprend avec ce qu'il fait dans notre vie. Et je vais vous dire que le Seigneur va vous surprendre à partir du moment où vous allez vous confier vos vies, où vous allez être là où vous n'êtes pas, là où c'est pas de votre volonté. Parce que parfois dans notre vie, nous sommes amenés là où on ne veut pas être. Mais même dans ces circonstances difficiles, même dans un exil, même éloigné du bonheur, faites confiance à l'Éternel, parce qu'il est là à côté de toi. Il est là en toi. Et c'est lui qui nous donne la force et la sagesse de continuer. Restons comme Daniel, fidèle à Dieu. C'est là mon message de ces jours. Je veux vous inviter à nouveau à la prière. Seigneur Jésus, nous te demandons de nous aider à être comme Daniel, de faire confiance en toi et de rester en prière. Aide-nous, Seigneur, à donner toujours la bonne réponse quand une réponse nous est demandée que nous pouvions chercher ta face. Aide-nous, Seigneur, aussi à valoriser la prière et croire à la puissance de la prière. Aide-nous, Seigneur, viens restaurer notre âme, viens renouveler notre foi en toi. Et nous prions que tu puisses nous donner la force de continuer et de rester fidèles jusqu'au dernier jour. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Soyez bénis, merci pour cette occasion.